VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Bamako, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Mali, première visite dans le pays de Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU depuis sa prise de fonction. Le responsable onusien a annoncé hier le prochain déploiement d'une force d'intervention rapide composée de casques bleus sénégalais dans le centre du Mali, où se sont multipliées depuis 2015 attaques et violences intercommunautaires. La MINUSMA, la force onusienne sur place, est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vie humaine depuis la Somalie en 1993-95, avec plus de 70 casques bleus tués en opération. Au Burkina Faso, les autorités mettent de l'ordre dans les services payés à la police par des organisations privées. Une enquête du ministère de la Sécurité intérieure a mis en relief des fautes de gestion imputées à la hiérarchie policière. Le ministre burkinabé de l'Intérieur, Simon Compaoré, évoque un nouveau départ.
Tout cela est parti d'un texte de 1979 qui au jour d'aujourd'hui est complètement dépassé et qui a laissé beaucoup de failles, et ces failles ont permis justement à ce qu'il y ait ces avatars. Nous avons voulu savoir la vérité. Les mesures ont été déjà prises. C'est que jusqu'à ce que le gouvernement opine sur un nouveau décret, il n'y aura plus de fonctionnement comme cela au niveau des services payés. Si on a un contrat avec une banque qui doit payer régulièrement 1 million par mois, ce million-là rentrera dans la caisse de la structure et la structure va en faire une utilisation qui profite à l'ensemble des policiers, mais pas à des individus styles responsables.
Simon Compaoré, ministre de l'Intérieur du Burkina Faso. Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a donné la priorité à la paix et à la sécurité pour régler la mutinerie qui a secoué le pays pendant 4 jours. C'est ce qu'a assuré le porte-parole gouvernemental Bruno Kone à la sortie du Conseil des ministres mercredi, John Lindon.
Le nouveau bilan des victimes de la toute dernière mutinerie s'élève à 4 morts et 9 blessés, d'après Bruno Kone, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. À l'issue du Conseil des ministres, il s'est refusé à donner un chiffre exact de la facture à payer qui devrait s'élever à 60 milliards de francs CFA, soit 1% du budget de l'État. Les mutins ont obtenu satisfaction en 4 jours avec leurs fusils alors que les fonctionnaires font grève depuis des mois pour réclamer des augmentations de salaires et paiement d'arriérés de primes estimés à plus de 200 milliards de francs CFA. Pour le syndicaliste Théodore Nyanya Zadi, le gouvernement devrait faire de même pour les fonctionnaires. Pour ce qui concerne ces travailleurs de la fonction publique, le ministre Bruno Kone s'est contenté de dire que des discussions sont en cours.
Au Bénin, brouille entre le gouvernement et les agents aéroportuaires qui disent non à ce qu'ils qualifient de bradage de l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantin de Cotonou. Notre correspondante sur place, Ginette Fleur Adandé, explique les raisons de la colère des travailleurs de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la SECNA.
L'aéroport n'est pas en faillite. C'est quand il se tient en faillite qu'on se précipite pour chercher des solutions.
C'est après une assemblée générale mardi que les travailleurs ont décidé d'aller en grève afin de protester contre la rapidité avec laquelle le gouvernement veut mettre en concession l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantin de Cotonou. Ils s'insurgent contre cette action qui, selon eux, ne respecte aucunement le dialogue social et laisse penser à des manœuvres douteuses pour brader le bien public.
Ils ont commencé dans un premier temps à critiquer la SECNA à parlant de lenteur. Mais vous voulez accélérer. On vous dit amenez le plan que vous n'avez pas amené. Vous voulez maintenant accélérer. Vous voulez que les choses aillent mieux. Vous mettez en place un comité pour qu'on travaille et vous passez derrière pour faire un théâtre, un dossier d'appel d'offres.
Branle-bas a dit dans les compagnies qui ont dû veiller tard pour que les vols à destination de Cotonou arrivent à Lomé. Le ministre des Transports, de son côté, a réuni la presse pour expliquer le bien fondé de la décision du gouvernement. Pour lui, la gestion de l'aéroport est des plus catastrophiques depuis quelques années. Hervé Réromain.
Aucun spécialiste, aucun membre du personnel de la DAN n'a fait la spécialité gestion aéroportuaire. Et tout ça concourt à l'état dans lequel notre aéroport est aujourd'hui. Vous allez dans des pays voisins, les aéroports rapports ne sont plus comme nous sommes à Cotonou. Nous ne voulons plus faire de l'amateurisme, nous ne voulons plus confier notre aéroport à des amateurs.
Mercredi matin, alors que tout le monde s'attendait à une grève illimitée, comme l'ont décidé les travailleurs, un comité de 13 installé a quelque peu désamorcé la grève.
Comme vous pouvez le savoir, lorsqu'un syndicat dépose une motion de grève, son objectif ce n'est pas la grève, c'est la satisfaction d'un besoin qu'il exprime. Nous ne pouvons pas encore dire à l'étape de négociation que ce qui est dans la motion a été pris en compte. Mais nous sommes sur la voie.
Mais la menace reste toujours évidente puisque les travailleurs exigent que la décision du comité de crise soit l'annulation du processus qui apparemment, selon le gouvernement, est à un niveau bien avancé. Même si l'équipe dirigeante de la SECNA se félicite de l'accalmie actuelle, les travailleurs ne comptent pas baisser la garde. Le ministre maintient que la gestion de l'aéroport sera retirée à la SECNA pendant que les travailleurs exigent le contraire.
L'Assemblée générale donc exige l'annulation pure et simple de la procédure de mise en concession de l'aéroport cardinal Bernardin-Gadi de Cotonou en attendant les résultats des travaux du comité ad hoc.
La petite lueur qui semble traverser le ciel aéroportuaire risque de s'obscurcir davantage si les deux parties n'arrivent pas à accorder leur violon. De Cotonou, Ginette Leadondé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité américaine maintenant. Nouvelle surprise à Washington où hier soir, l'ancien directeur du FBI et la police fédérale, Robert Mueller, a été nommé au poste de procureur spécial pour superviser, et je cite, l'enquête sur les efforts du gouvernement russe pour influer sur l'élection présidentielle de 2016 et questions connexes. Fin de citation. Les précisions de Jean-Roger Bion.
En annonçant la nomination de Robert Mueller, le ministre adjoint de la Justice, Rod Rosenstein, a tenu à préciser qu'elle ne signifiait pas que des crimes ont été commis et que des poursuites étaient nécessaires. M. Rosenstein était plutôt sceptique ces derniers jours sur la question du procureur spécial, mais en se fondant sur des circonstances uniques, a-t-il estimé, il est maintenant dans l'intérêt public de confier l'enquête à une personne qui a un degré d'indépendance par rapport à la hiérarchie du département de la Justice. En réaction, le président Donald Trump, sans mentionner M. Mueller, a déclaré dans un communiqué « Une enquête complète confirmera ce que nous savons déjà. Il n'y a eu aucune collusion entre mon équipe de campagne et une entité étrangère », ajoutant « Je suis impatient que cette affaire se conclue rapidement ». Robert Mueller a dirigé le FBI et la police fédérale américaine pendant 12 ans, de 2001 à 2013, sous George W. Bush, puis Barack Obama, avant d'être remplacé par James Comey, dont le limogeage la semaine dernière par le président Trump a suscité un tollé. Selon la presse américaine, le président aurait demandé à M. Comey de mettre un terme à une enquête sur Michael Flynn, l'ancien conseiller présidentiel à la sécurité nationale, qui avait induit en erreur sur ses contacts avec les Russes.
Relations Afrique-France, quelles seront les grandes orientations de la politique africaine-française après la formation du premier gouvernement Macron? Les observateurs notent l'absence de ministère qui centralise les relations du continent africain avec l'Hexagone. Écoutez l'avis d'un spécialiste, Mathieu Collet, président de Euro Agency, une agence de communication politique et de diplomatie publique.
Emmanuel Macron a dit pendant sa campagne « J'agirai en Afrique en toute transparence, loin des réseaux de connivence ». Il sous-entendait probablement deux types de réseaux, certains réseaux économiques et certains réseaux plus diplomatiques et de soutien, on va dire, à des chefs d'État non élus démocratiquement. Par exemple, il avait pris ses distances avec Bongo, on le sait. Mais il avait dit aussi « La politique de normalisation engagée par François Hollande doit aller à son terme ». Donc ça veut dire qu'il va avoir, à mon sens, une diplomatie surtout économique à côté de la lutte contre le terrorisme, l'engagement militaire, du rôle de stabilité que joue la France et que la France souhaite assurer. Il y a une chose qui est importante à souligner, c'est le fait que Le Drian soit ministre des Affaires étrangères, donc ça indique qu'il y a une forte continuité, une certaine continuité, notamment en termes de défense, de politique militaire et de positionnement de la France sur l'espace stratégique. Je pense que une des préoccupations d'Emmanuel Macron, c'est que les entreprises des deux continents se parlent, enfin, françaises et africaines se parlent, et ça, ça va être vraiment primordial. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à défendre et à soutenir les grands groupes français et leurs intérêts, donc là, je ne vois pas de rupture fondamentale. Mais voilà, je pense que la politique de développement, la francophonie, va demeurer un point important de diplomatie, et en particulier de diplomatie économique.
Mathieu Collet, directeur de l'agence de communication Euro Agency. Et pour terminer, au Gabon, la capitale Libreville accueille jusqu'à vendredi une rencontre sur les afro-descendants, les descendants des esclaves transportés en Amérique pendant la traite des Noirs. La réunion s'inscrit dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024 en Amérique. Une initiative de l'ONU visant à reconnaître un groupe dont les droits humains doivent être promus et protégés selon l'organisation internationale. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.